Je revois ces deux vieux dans la salle à manger du logement de l'école. Clara, ma grand-mère, longue femme blême aux joues caves, image de la mort inquiète, résignée mais brûlante, curieux mélange des expressions si vivantes, vivaces, et du masque d'outre-tombe sur lequel elle se jouait. Ses frêles et longues mains serrées sur le genou maigre, ses lèvres, dont le dessin, quoique aminci par l'âge, était resté impeccablement net, s'étirait quand elle me regardait en un sourire, vague sans doute d'une nostalgie indicible, mais en même temps aiguë, séduisant, de femme jeunette. Je craignais l'acuité des grands yeux très bleus, à la joliesse douloureuse, qui longuement se portait sur moi, me lisait comme pour fixer, indélébile, mes traits en sa vieille mémoire. Sous ce regard, peut-être mon malaise s'accroissait-il de ce que j'y devinais. Sa tendresse ne s'adressait pas qu'à moi. Elle fouillait au-delà de mon visage d'enfant, à la recherche des traits du faux mort, mon père, regard vampire et maternel à la fois, dont me troublait l'ambivalence, comme me troublait la finesse du jugement qu'à tort ou à raison, je prêtais à ce personnage imposant, effrayant et charmeur, familier des mystères auxquels l'avouait son prénom insolite et l'appellation magique de son métier, sage-femme, dont à Mouriou j'ignorais absolument le sens et qui me paraissait à elle seule réservée. Elle éclipsait presque totalement la figure de mon grand-père Eugène, sans pour autant lui opposer cette barrière bavarde et aigrement condescendante dont certaines épouses circonviennent leur mari, lui refusant la parole, puis toute pensée, et au bout du compte, la vie. Lui, je ne le craignais pas. Je l'aimais bien. Mais je crois que si j'ai jamais aimé l'un des deux, ce fut Clara, dont les yeux douloureux et vagues, à peine effleurant les choses et se les assimilant pourtant d'une caresse, avec des poses lourdes de regrets aussitôt contenus, me serrait le cœur. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Valentin Dedon et je suis ravi de vous retrouver sur Radio G pour un nouvel épisode d'Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères. De lundi par mois, à 13h, en semaine impaire, ou quand vous le souhaitez sur radio-g.fr, on se souvient de nos grands-mères avec une ou un invité. L'écrivain Pierre Michon les revoit, ces deux vieux. Il la revoit surtout elle, grand-mère éclipsant le grand-père. Grand-mère au prénom insolite, au métier sacré, au regard si troublant. Grand-mère aimait jusqu'à lui consacrer un chapitre somptueux de son chef-d'œuvre inaugural intitulé « Vie minuscule », paru chez Gallimard en 1984 et dont je viens de lire un extrait en exorde de cet épisode. « Vie minuscule », un livre d'ailleurs adapté au théâtre il y a quelques années, sur scène, cet espace où elle crée et se sent si bien, je crois, on lui demandera, mon invité du jour, que je suis ravi d'accueillir au micro de Radio G, Bénédicte Humeau-Galard, comédienne, metteuse en scène et autrice. Bonjour Bénédicte et merci d'avoir accepté l'invitation d'Albertine.
Bonjour Valentin.
Alors Bénédicte, première question rituelle de cette émission, c'était quoi le prénom de tes grands-mères ?
Alors ma grand-mère paternelle s'appelait Émilienne. Elle est décédée déjà il y a un bon moment. Et puis ma grand-mère maternelle, Flavie.
Alors Émilienne et Flavie, comment tu les appelais toi ? C'était quoi leur surnom de grand-mère ?
Alors Émilienne, c'était Mamie, Mamie Humeau. Et puis Flavie, c'était Mamie aussi, mais c'était Mamie Ferro. C'était leur nom de famille en fait. C'était vraiment Mamie Humeau et Mamie Ferro. Et puis après les petits-enfants, on transformait un peu le nom. Mamie Ferro s'est transformée en Mamie Féroce, car elle avait un caractère un peu particulier. Et du coup, j'ai trouvé ça très bon parce que je pense que si moi, je me l'étais autorisée à l'époque, eh ben, je l'aurais peut-être appelée Mamie Féroce aussi, même si elle était adorable, cette mamie, mais beaucoup plus stricte.
Alors cette Mamie Féroce, ouais, qu'est-ce qu'elle avait de férocité ? Raconte-nous un petit peu comment ça se matérialisait. Et puis on parlera aussi de son côté adorable, bien sûr.
En fait, elle était, c'était une femme intellectuelle. Prof de français, ancienne institutrice de français. Je sais qu'elle a eu un rapport avec l'enseignement. Du coup, elle passait quand même beaucoup de temps à nous corriger. Donc, c'était très important pour elle. Donc, souvent, la communication avec elle, ça passait par la correction, pour bien parler.
L'exactitude.
L'exactitude, les règles de grammaire. Voilà.
Oui, oui, elle se détachait jamais de cette exigence, ou rarement.
C'est le souvenir que j'en ai, en tout cas. Et c'est vrai que, comme ma maman est née très tard, moi j'avais une très vieille mamie. Mamie Flavie, c'était vraiment une très vieille mamie pour moi, et j'avais peu de complicité avec elle. Elle regardait souvent nos faits et gestes, elle corrigeait ce qu'il y avait à corriger, à la fois dans l'éducation, le comportement, voilà. Donc, sinon, elle ne s'occupait pas forcément de nous. Mais par contre, j'ai des souvenirs, alors si on veut parler aussi du côté plutôt agréable, ma maman est du Var, et ma grand-mère aussi, évidemment, et donc on allait la voir à Salernes, dans le Var, dans le 83. Et ça, c'est des souvenirs de vacances extraordinaires que j'ai pu avoir avec ma mamie aussi. On allait sur le cours, sur le marché. Donc, il y a beaucoup de souvenirs autour de la nourriture. Si elle a pu nous donner de l'amour, cette grand-mère, c'est aussi autour de la nourriture et de la transmission des recettes.
Oui, souvent, les recettes, tout ce qui se passe dans la cuisine, ça peut remplacer les mots d'amour qu'on ne prononce pas.
Oui, c'est ça. Exactement.
C'était son cas, Flavie ?
Oui, c'était son cas. Je pense que... Alors, peu de regard aussi. Je n'ai pas le souvenir de tout ça, mais je pense que dans enfant, comme je la trouvais très, très vieille, cette mamie, je vivais autour d'elle. Je vivais dans son environnement. Mais voilà, en termes de complicité, c'était quand même... Il n'y avait pas grand chose.
Et emmène-nous un petit peu dans sa cuisine, là, dans le Var. C'était quoi les aliments, les odeurs, les plats dont tu te souviens, ou les moments un petit peu de cuisine ?
Alors, la maison de ma grand-mère, c'était une grande, grande maison assez bourgeoise dans le quartier de Salernes. Très sombre, avec un couloir très frais. On montait les étages pour aller jusqu'en haut. Il y avait une petite ficelle, d'ailleurs, qui pendouillait depuis le troisième étage de tout en haut des escaliers pour accrocher des paniers pour remonter les victuailles et les affaires du marché. Et ça, c'était un rituel et un vrai jeu de pouvoir accrocher le panier après qui vient tirer la corde tout là-haut dans la résonance de cette espèce de grande entrée, de grande alcôve.
Un privilège d'avoir le droit de tirer la corde.
Oui, exactement. Et puis après, on montait les légumes tout là-haut et on rentrait directement par la porte de la cuisine. Et la cuisine, c'était une pièce assez sombre, mais avec des odeurs toujours d'ail et d'huile d'olive, tout le temps. Il y avait vraiment... Et j'adorais cette odeur. Et ça venait vraiment envahir presque toute la maison, jusque sur la terrasse, voilà, où il y avait les paillasses, où on se mettait à l'ombre, en fait, avec les plantes grasses sur la terrasse. Et cette odeur de cuisine qui envahissait toute la maison. Ça, c'est vraiment... Ouais, le souvenir de la fraîcheur de cette maison, de cet environnement... Forcément, quand on était là-bas, on était en vacances, on lâchait tout, et voilà, avec le bruit des cigales, et on était bien.
Et cette odeur-là, elle te saisit encore parfois, tu la rencontres, elle te mène un peu dans les souvenirs de cette maison.
Ah oui. Il y a des odeurs très très précises, l'odeur aussi du savon de ma grand-mère, l'odeur un peu, c'est assez marrant, entre le savon et la poussière, des vieilles serviettes de toilette qui étaient... Tout rangé, il y avait énormément d'affaires dans cette vieille maison bourgeoise. Donc, c'était rempli de choses. Donc, c'était une caverne d'Ali Baba aussi, quand on allait dans les greniers. On retrouvait des vieilles cartes postales, des vieilles affaires. Et il y avait cette odeur de poussière, mais un peu savonneuse propre. C'est assez marrant. Et quand des fois, chez ma propre maman, qui a déménagé quelques affaires de cette maison, je retrouve cette odeur très futile, en fait, très fugace. À chaque fois, je me retrouve forcément soit dans la salle de bain ou dans les entre-pièces, comme ça, parce qu'il y avait beaucoup de débarras. On passait par le débarras pour passer d'une pièce à l'autre. C'était vraiment une maison très alambiquée.
Oui, il y a quelques motifs de cette maison qui se retrouvent aujourd'hui chez ta maman.
Ah oui, ah bah oui. ouais. Et les odeurs aussi, parce que maman transmet aussi beaucoup la cuisine. Donc oui, c'est des souvenirs... épicé, fleuri, joyeux, lumineux. C'est très solaire, en fait. Malgré cette mamie très droite, avec des yeux bleus très, très clairs. Elle avait des cheveux blonds. Alors moi, je les ai toujours vus avec ses cheveux blancs. Mais il y avait des peintures, il y avait des portraits où je voyais ma mamie qui avait été prise en... Enfin, qui avait été portraitisée, on dit, comme ça. Jeune fille, et c'était très étonnant. Tout ce qui était accroché au mur aussi était assez lourd, assez chargé en histoire. On sentait qu'il y avait une histoire familiale très importante, en tout cas.
Elle l'a raconté, cette histoire familiale? Il y avait un récit?
Il pouvait y avoir des récits. Alors, surtout sur son histoire. Alors, pas forcément d'elle, mais surtout des enfants autour, ou des neveux ou des nièces, ou des gens qui ont posé des questions sur la vieille briqueterie de Salerne, ou du côté Dauphin, donc du côté de ma grand-mère. Ils étaient propriétaires d'une briqueterie. Les carrelages de Salerne sont assez connus encore aujourd'hui, je crois. Et donc, il y avait cette histoire qui nous était racontée. Mais sinon, il y avait aussi des histoires tristes autour de la guerre, autour de tout ça. Et ça, il y avait vraiment, on sentait une omerta. Il ne fallait pas parler de ça. Il y avait eu des histoires très tristes autour de ça. Et on sentait, d'ailleurs, sur les murs de la maison, toute cette histoire-là aussi très chargée.
Donc Flavie, Mamie Ferraud, tu disais qu'elle était professeure de français. L'objet livre était aussi très présent dans cette maison ou dans son lien avec elle. Est-ce que y a quelque chose avec la littérature aussi ou...
Mais je pense, alors après, je ne sais pas trop ça non plus. Elle ne l'a pas trop partagé, parce qu'elle était déjà très âgée. Je n'ai pas su même si elle avait enseigné réellement ou si elle avait... Je n'ai pas trop connu sa vie d'avant. Je n'ai pas été très curieuse non plus. Mais en tout cas, c'était une famille assez, on sentait intellectuelle. Ma sœur avait des souvenirs de mon grand-père aussi, qui pouvait lui lire du Victor Hugo, les peintures, le piano, l'apprentissage du piano, donc la musique. Tout ça, ça faisait vraiment partie de la famille, du côté de ma maman. Beaucoup plus que du côté de mon papa, où là, je parle du coup de ma grand-mère paternelle.
Avec plaisir. Donc, présente-nous Émilienne.
Voilà, Émilienne, qui était une petite femme aussi très élégante, un peu comme Flavie, c'était deux femmes très élégantes, qui elle était plutôt maîtresse de maison, dans une maison bourgeoise aussi, plus propriétaire terrienne en tout cas, avec son mari, lui vigneron. Donc,
ici dans le Maine-et-Loire ?
Dans le Maine-et-Loire, oui. Et donc, pas du tout la même transmission, mais aussi à travers l'alimentation, la nourriture, les transmissions de recettes de ma grand-mère, très, très, très importante. Ça, c'est assez drôle à chaque fois. Des deux côtés, de toute façon, il y a eu cet héritage.
Tu dois être devenue une cuisinière hors pair grâce à tes deux grands-mères.
J'adore ça. Ouais, j'adore ça et j'aime beaucoup à la fois les couleurs et les saveurs. Ouais, j'aime beaucoup ça.
Tu t'inspires d'elles, elles sont...
Ah oui.
Elles sont là d'une certaine manière dans tes choix, dans ce que tu vas faire à manger. Elles sont là.
Oui. Et puis même mes enfants savent, ils savent que cette transmission-là, elle vient aussi de ma maman, de mon papa et de mes grands-mères. Beaucoup plus que mes grands-pères que je n'ai pas trop connus. Voilà. Et cette grand-mère-là, par contre, elle aimait prendre du temps pour me parler. Pour me dire, regarde où tu es, regarde ce que tu vis, regarde dans quel environnement tu es. C'était une mamie avec qui j'ai vécu, parce qu'on était dans une grande maison. Et j'ai vécu toute ma vie avec ma grand-mère. Enfin, toute sa fin de vie à elle.
Elle était là avec vous.
Elle était là avec nous. Après, elle a pris la décision de partir en maison de retraite à un moment donné, en disant, voilà, c'est temps, il est temps, je m'en vais, c'est moi qui pars. Mais voilà, elle avait sa maison dans...
Pardon, je te coupe, mais ouais. C'est un choix assez admirable.
Oui. Oui, alors elle disait, moi j'ai vécu toute ma vie, je me suis occupée de mon mari, je me suis occupée de ma mère, de ma belle-mère, je me suis occupée... C'était une femme très dévouée qui s'occupait beaucoup des autres. Et elle avait dit, jamais je ferai vivre ça aux enfants avec qui je vis aujourd'hui, qui étaient donc mon papa et ma maman. Et donc j'ai vécu toute mon enfance avec ma grand-mère et après mes deux grands-mères, parce que quand Mamie Ferraud ne pouvait plus vivre dans le Var, elle est venue aussi dans cette grande maison habiter avec nous. Donc c'était vraiment une maison familiale.
Ah, je crois que c'est la première fois dans Albertine qu'on a un moment de cohabitation avec les deux grands-mères, c'est magnifique.
Ouais. Elles se saluaient dans les couloirs, elles étaient très courtoises l'une envers l'autre. Voilà.
Est-ce que vous voyez ?
Oui, bien sûr. Et en fait, Mamie Ferraud était à l'étage, Mamie Homo était au rez-de-chaussée, et nous, on avait le reste de la maison, on envahissait. Oui, enfin, j'ai deux sœurs, on est trois filles, et on occupait tout le reste de la maison, mais qui était très grande, il y avait vraiment de la place pour tout le monde. un parc, un jardin. C'était, voilà, on était plus du côté propriétaire terrien, en fait, du côté de mon papa et de cette mamie, avec le lavoir, avec le ramassage du cresson, le jardin, les animaux, la ferme. Donc là, c'était plus du terre à terre, une transmission, un rapport à la nature très fort. Et du coup, j'ai eu ces deux, voilà, ces deux teintes-là dans mon univers d'enfance. Et je trouve ça très beau aujourd'hui d'avoir eu ça. Mais mamie Humo, oui, elle est... On échangeait ensemble.
On va reprendre le mot de complicité que tu as employé tout à l'heure. Là on a l'impression qu'avec Emilienne, il y avait une vraie complicité et elle a orienté aussi peut-être ton regard sur le monde.
Oui, mon regard d'enfant, oui, vraiment. Après, pourtant, c'était fugace. On n'a pas eu non plus des tonnes et des tonnes d'échanges. Mais
tu as des souvenirs clairs et forts.
Ah oui, c'était solennel quand même, il y avait des choses. Elle m'emmenait à la fenêtre, puis elle me disait « Regarde où tu es, regarde ce que tu as. »
La plus belle leçon possible.
Et oui, c'est ça. Et elle aimait nous régaler, et on sentait que tout ce qu'elle faisait, c'était des rituels, mais pour aussi régaler la famille, les enfants, les petits-enfants. Donc il y avait les bautreaux, il y avait toutes ces les confitures, toutes ces choses qui prenaient des journées et des journées pour confectionner tout ça, en fait.
Oui, c'était aussi un temps passé ensemble dans cet espace qu'est la cuisine.
Oui, ah oui. Et puis les odeurs aussi, bien sûr. Et le fameux gâteau sec, et attention, ça se transmet, tu dois savoir la recette avant de partir de la maison. Et voilà, donc c'était, on partageait beaucoup de temps, les mains dans la farine. Et... Ouais.
Alors c'est quoi les recettes un peu qui perdurent, qui restent là, dis-nous deux, trois petits plats.
Alors il y a le gâteau sec de Mamie Humo.
Sans trahir les secrets, bien sûr.
Très important. Non, alors ouais. Bon, en fait, c'est une galette.
Nous ne mettrons pas la recette sur le site internet de l'émission Albertine.
Non, c'est une galette, mais je pense que les mains de ma grand-mère faisaient que c'était la galette spéciale. Elle appelait ça la mayonnaise au chocolat aussi. C'était une crème au chocolat qu'elle faisait avec de la farine, et, voilà, qui était très, très bonne. Le riz au lait, les pêches cardinales. Enfin, énormément de choses qu'elle fabriquait, les confitures évidemment, les bautreaux, voilà. Et du côté de ma grand-mère Ferro, je sais que maman me parlait souvent de ses goûters. Quand elle rentrait du goûter, elle avait une tartine avec le filet d'huile d'olive et grattée à l'ail. C'était son goûter de petite fille. Et du côté de mon papa, c'était la bonne tartine de beurre qui va bien avec le chocolat dur râpé dessus comme ça.
On est sur deux régimes différents, là, deux géographies différentes.
Ouais. Mais quand mon papa et ma maman se sont rencontrés, c'était vraiment l'alliance entre le vin et l'huile d'olive. Et ils en parlent avec beaucoup de fierté aujourd'hui, mes deux parents. Voilà, le vin et l'huile d'olive, c'était quand même quelque chose.
Parce que ça a généré quelque chose de particulier, cette rencontre.
En tout cas, autour des saveurs gustatives, du repas partagé, de la convivialité, des maisons ouvertes à tout le monde. Cette maison, en fait, il y avait mes deux grand-mères, mais il y avait toujours la famille. Il n'y avait pas que mes grand-mères, d'ailleurs. C'était vraiment... c'est une maison qui n'était jamais fermée.
Ouais, maison accueillante.
Très accueillante. Les portes ouvertes à tout va. C'était même limite, des fois, mais c'était comme ça. Une maison courant d'air. Et puis un grand jardin, un grand parc, la fête, les baignades. Donc, c'est toujours des souvenirs inoubliables, en fait.
Et à Bénédicte, on l'a dit en exorde de l'émission, tu es autrice, metteuse en scène, comédienne. Je crois qu'il y a un spectacle que tu as co-créé qui s'appelle « C'est sûrement le grand-père ou la grand-mère de quelqu'un
oui. »,
c'est bien ça
oui.
Que tu peux nous parler un petit peu de ce spectacle et en quoi il est peut-être inspiré de ces grand-mères ou de ces univers familiaux dont tu viens de nous parler.
Alors, ça a été d'abord l'envie de collaborer avec Nathalie Baucher, donc qui est la comédienne avec qui je joue sur ce spectacle. Et on cherchait un sujet commun, quelque chose qui nous rassemble toutes les deux, en fait. De quoi on avait envie de parler à ce moment-là. Moi, je venais d'être jeune maman. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se balance un peu comme ça. Quand on... Voilà, Je goûtais la maternité, du coup je voyais ma mère comme une grand-mère et je voyais ma grand-mère comme une arrière-grand-mère et tout bascule un peu. Et on avait envie de faire un hommage aux grand-mères. Et Nathalie aussi, ça lui, c'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Et donc, on a commencé d'abord, sans trop savoir ce qu'on allait en faire, mais collecter, un peu comme toi, des enregistrements, des choses, des témoignages autour des grands-parents. Et c'était vraiment, l'idée, c'était de faire un hommage aux grands-parents, en général, parce qu'on voyait bien que ça pouvait toucher tout le monde et que de toute façon, ça pouvait ne jamais s'arrêter. C'est-à-dire que la mère devient grand-mère et ainsi de suite. Et j'espère un jour devenir grand-mère. Et voilà. Et du coup, de se dire, mais comment devient-on grand-mère ? Qu'est-ce que ça fait dans la tête des gens ? Comment est-ce qu'ils vont témoigner eux-mêmes de ça ?
Et donc, vous êtes plutôt allé voir des personnes qui sont grand-mères ou grand-pères pour questionner leur ressenti de cet état, de ce statut-là, entre guillemets.
Ouais, tout à fait.
D'accord.
Et aussi des petits-enfants. Alors, il y a le témoignage de mon fils dans le spectacle, d'ailleurs, parce qu'on a pris aussi des témoignages de petits bouts de choux. Et qu'est-ce que c'est quoi pour toi, ton papy, ta mamie ? Et après avoir collecté tous ces témoignages, on est parti en écriture toutes les deux. Et puis on s'est dit, ben voilà, pour en parler le mieux possible, on va juste et pour pouvoir retranscrire aussi au mieux tout ce qu'on a collecté et nous ce qu'on avait à cœur de transmettre. On est parti sur une espèce de conférence un peu décalée. Donc ça fait une dizaine d'années. Cette création-là, elle est quand même assez vieille maintenant, 10-12 ans. Et Martine Dubois est donc chercheuse en généalogie et elle vient nous partager sa thèse de 875 pages et sur le thème des grands-parents. Et elle est accompagnée de Daniel Potier qui est là pour mettre en marche le rétroprojecteur, d'éteindre les lumières, de mettre en marche le témoignage vocal. Elle se prend les pieds dans le tapis bien souvent. Très bavarde, elle a très très envie aussi, elle, de partager ses souvenirs de grand-père et de grand-mère.
Ah oui, elle ne peut pas s'empêcher aussi de participer à l'évocation.
C'est ça, donc elle intervient souvent. Martine Dubois n'en peut plus à la fin. Et puis voilà, il y a une relation qui se crée entre les deux personnages. À la fin du spectacle, ce qui est très chouette, c'est qu'à la fois ça se marre, ça rigole, parce que c'est un duo clownesque en fait. Hein, on est vraiment sur du clown blanc et de l'auguste, en fait. C'est vraiment. Mais il y a des larmes qui s'échappent. Enfin, voilà, il y a des gens, ça remonte parce que forcément, c'est universel cette histoire.
Est-ce que ce spectacle est encore joué aujourd'hui ? Tu disais qu'il a une dizaine d'années, mais est-ce qu'il est encore joué ou il peut être joué ?
Oui, il peut être joué encore. Oui, il est toujours. Ce qui est rigolo, c'est qu'on n'en fait pas trop la communication, la diffusion, parce que il a fait un peu son temps. Mais en fait, tous les ans, il y a toujours un petit coup de fil. Oh là là, on a un thème. Est-ce que vous pourriez venir faire ce spectacle ? Et puis on en a entendu parler par telle personne, parce que c'est un spectacle qui joue en médiathèque, qui peut jouer, c'est du tout terrain, quoi. Il y a une petite installation, puis on est complètement autonome, donc en fait, on peut jouer dans des endroits, en extérieur, en intérieur.
Et est-ce que le thème de la famille, de la relation, des relations familiales, inspire aussi ou a inspiré d'autres projets avec ta compagnie qui s'appelle La Trébuche, je crois ?
Oui. Alors, c'est vrai que c'est assez. En tout cas, les souvenirs de famille, les souvenirs d'enfance, effectivement, c'est souvent revenu au goût du jour dans cette histoire de création de spectacle à La Trébuche. Le thème de l'enfance aussi, beaucoup. Moi, j'estime que mon enfance est hyper précieuse et j'essaye de la conserver encore un peu. Je suis clown aussi, d'ailleurs, donc j'ai réussi à faire ça, à garder cette petite part d'enfance. Et du coup, il y a beaucoup de créations qui parlent des souvenirs de petite fille, quand j'étais petite fille. Et je sais que j'essaye d'en faire à chaque fois une écriture universelle pour que ça touche, en fait, pour que ça touche aussi le public et de voir jusqu'où ça va dans le partage, en fait, de toutes ces émotions.
Bénédicte, il est malheureusement déjà l'heure de mettre fin à cette conversation grand-maternelle. Merci beaucoup de nous avoir présenté Émilienne et Flavie et d'être venu rendre visite à Albertine.
Avec plaisir.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Albertine. On se quitte comme d'habitude avec un texte choisi et lu par notre invitée Bénédicte Humeau-Gallard.
Alors le texte que j'ai choisi, en fait, c'est une pièce de théâtre de l'École des loisirs pour les ados. Que j'ai fait mettre en scène l'année dernière avec des jeunes avec qui j'ai travaillé l'année dernière, qui s'appelle « Au dodo mammouth » d'Anouk Paré. Et donc, c'est l'histoire d'une famille nombreuse. Ils sont 27, en fait. Ils sont tous dans un grand immeuble. Et il se trouve que Mammouth doit garder tous les enfants, les cousins, les cousines, les frères et sœurs. Ils sont très nombreux. Et voilà, c'est un petit extrait. Ça commence d'ailleurs, c'est le début de la pièce. Quand on parle de nos pères, on sait de qui on parle. On a chacun le sien, même si le mien, il n'est plus là. Là ou pas, c'est papa. Quand on parle de nos mamans, pareil, chacune la sienne. Des fois, la même pour plusieurs, quand on a des frères et des sœurs. Une maman, on n'en a qu'une chacun. Une chacune, et on l'appelle maman. Alors que nos grands-mères, notre grand-mère, on a tous la même. Elle est unique. On a tous la même, d'accord ? Mais on l'appelait pas tous pareil. Ça embrouillait. Il y en a pour qui c'était mamie, d'autres Mani, Ina, Mémère, Mamoun. On savait plus de qui on parlait quand on parlait de notre grand-mère. Alors on a voté, comme à l'école. Nous tous, les cousines et cousins, on s'est réunis dans notre cachette chez elle, au rez-de-chaussée. Elle dormait comme d'habitude, quand elle n'est pas en train de parler toute seule ou de discuter avec les murs. Elle ne nous écoutait pas. Pour Mémé, qui lève la main ? 1, 2, 3. 3 pour Mémé. Pour Ina, 5. Mémère, Mamoun. Et puis, mon petit frère, il a glissé sur sa langue et il a dit « Et pour Mammouth ?» On a ri, mais on s'est mis d'accord. Ça nous a tous plu, Mammouth. Elle est vieille, tellement vieille. Comme un mammouth. Et on s'est organisé dans notre cachette, chez Mammouth, au rez-de-chaussée. Elle dormait toujours, mais cette fois, on a pris un dictionnaire. Et dans le dictionnaire, il y a des synonymes. On a cherché à V, V comme vieux. Vieux pour arrêter de dire vieux quand on parlait des vieux, parce que ça se dit pas. Sur ça, on était tous d'accord. Ça se dit pas de dire vieux. Alors on dit quoi ? V, V, viennoiserie, vierge, vietnamien, vieux. Synonyme ancien, antique, aîné. Ohé, moi je suis l'aîné, mais je suis pas un vieux, hein. On t'a dit que ça se dit pas de dire vieux. Bah on dit quoi ? C'est pour ça qu'on est là, on cherche. Alors, aîné, personne âgée. Oh, personne âgée, on a trouvé ça beau comme mot. Mais on s'est demandé à partir de combien on était vraiment une personne âgée, parce que âgée de combien ? 50 ? 72 ? 80 ? On parle pas de chat, hein, on parle de personne âgée. 75. Moi, je dis qu'on n'est jamais âgé. Moi, je dis qu'on est âgé dès qu'on est. T'as vu ça où, toi ? N'importe quoi. Moi, je sais, à 103 ans. On n'est plus vieux à 103 ans. On est mort. T'es vraiment fou, toi. Quand on est mort, on n'est plus âgé du tout. Quand on est âgé, c'est qu'on est encore vivant. Oh là là, c'est compliqué. Alors, on a laissé tomber personne âgée, parce que on n'a pas réussi à voter à main levée, ni à se mettre d'accord sans se bagarrer. On s'est replongé dans le dictionnaire. C'est ma grande sœur qui lisait. Elle lit bien. On dirait qu'elle raconte des histoires, même quand elle lit le dictionnaire. Et on l'a écoutée en silence. Hors service, gâteux, au rebut, périmé, poussiéreux. À chaque fois, on faisait « non » de la tête. Avancé, défraîchi, croulant, fossile, centenaire, séculaire, millénaire, historique. Mammouth, elle n'est pas historique, elle est préhistorique. Arrêtez de rire, ça se fait pas de parler comme ça des vieux. Sage, c'est pas mal ça, sage. Comment on peut savoir si elle est sage ? Elle désobéit même à ses enfants. Hier, elle a mis presque 1 kilo de sucre dans son thé et mon père, il n'a rien pu y faire. T'as raison, sage, c'est pas pour elle. J'ai trouvé. D'époque. Oh oui, c'est bien ça. Elle est d'époque, notre mammouth. Comme dans la voiture, au bled, avec ses sièges qui sentent bon. Oh yes ! Là, on était tous d'accord. Mais on a voté, pour faire ça bien, comme à l'école. On était d'accord à l'humanité, pour dire qu'elle n'était pas vieille, mais d'époque, notre mammouth. Et on a retiré le H à mammouth, parce qu'il sera rien, on l'entend pas le H quand on l'appelle mammouth. Mais on a gardé les deux M. Pourquoi ? Parce qu'on l'aime beaucoup.
Mais non, parce que ça fait plus mou, plus moelleux, comme ses joues.